Le 23 juillet 2018, mon nom est Claude Blas. Quel plaisir d'être là tous les lundis pour vous accompagner à l'émission Les Voix de Service Magazine. Et en plein dans les vacances pour plusieurs d'entre vous. Et j'espère que ça se passe bien malgré la météo qui est cette semaine. Coussi coussa, comme on dit. Mais en fait, pour les prochains jours, on verra. On vous souhaite surtout du repos et du bon temps. Alors, différents articles à lire ce matin, c'est la mission de l'émission, voilà. Hein? Je fais des rimes quand même.
Ben oui.
L'émission, la mission de l'émission.
Ah, oh, c'est beau.
C'est beau, hein.
Ça m'épate.
Ce qu'on a, celui ça qu'on m'étonne. Entend, c'est Roger.
Bonjour.
Roger qui va nous lire deux articles
oui,
ce matin,
si on,
encore
si
une fois.
Si on se parlait justement, Claude.
Oui.
C'est un des textes que je, dont je vais vous parler.
Ah oui?
Oui, c'est ça.
Il me semble que j'avais vu ce titre-là cette semaine.
Oui, c'est dans la sélection du Reader's Digest.
Oui.
Oui, oui.
D'accord.
Vous êtes à la page, Serge. Claude.
Oui.
Et aussi, un autre texte, c'est « Le bonheur est au nord ».
Ah!
Oui.
Au nord de Montréal.
Il y en a qui s'en vont dans le sud, il y en a certains migrants là, qui vont chercher le soleil, mais d'autres, ils ne savent pas que le bonheur est vraiment au nord.
Ah.
Je vais vous en parler. Ah, il y a eu des enquêtes sérieuses de fait sur la question.
D'accord.
Il ne faut pas s'en aller au Mexique trop souvent.
Ah.
Non.
Et la deuxième voix dont on entendait ce matin, et qui est en train de faire sa manicure, en fait.
Oui, oui, bon, c'est bon. Alors, tous dehors.
Serge Hamelin, comment allez-vous?
Si ça va.
Oh, mon Dieu.
Quelle belle question. Alors, comme vous voyez, ça va bien.
D'accord.
Quand j'y pense pas. Alors, donc, tous dehors, c'est l'outdooring, OK? Puis l'autre, c'est la banlieue réinventée.
Ah!
Ça, c'est beau, ça.
Oui.
Oui, oui, ça vaut la peine d'écouter ça.
Ça vaut la peine d'écouter ça?
Oui, oui.
Mais moi, j'aurai deux articles dans la deuxième demi-heure. Deux petits articles, en fait, que j'ai retrouvés aussi dans le Reader's Digest de sélection de juillet et août. Une santé de fer. On parle des suppléments de fer. Apparemment, c'est bon.
Apparemment.
Apparemment. On verra ça tantôt. Et eau de vie. Eh bien, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau. Alors, je vous lirai l'article un petit peu plus tard. Pour l'instant, on vous revient avec Roger. Si on se parlait, Roger.
Oui, il n'y a pas si longtemps, lorsque des membres de ma famille venaient passer le week-end à la maison, une fois les enfants couchés, nous nous servions un verre de vin et bavadions jusqu'à minuit, riant de nos vieux souvenirs et partageant de nouvelles histoires. C'est Lisa Fields qui nous parle et qui nous raconte son expérience dans la sélection du Reader's Digest du mois de juin. Aujourd'hui, la dynamique est tout à fait différente. Le premier adulte revenant de coucher les enfants ne se préoccupe pas d'aller chercher les verres à vin, mais se cale au fond du canapé avec son portable. Seulement jusqu'à ce que les autres arrivent, se dit-il. Un par un, chacun réapparaît en effet dans cette pièce où fusaient naguère les anecdotes amusantes. Aujourd'hui, le silence a remplacé les rires. Tout le monde consulte ses courriels, ses textos, sa page Facebook. Finalement, nous prendrons un verre de vin et nous nous mettrons à parler, mais chacun gardera son portable sur ses genoux toute la nuit, et la conversation sera souvent interrompue par une alerte indiquant que quelqu'un ailleurs a quelque chose, est-ce que c'est plus important, point d'interrogation, à dire. Chaque fois, je regrette ce temps où mes proches et moi portions toute notre attention aux autres et étions réellement connectés. Je ne suis pas seul à vivre cette situation. La moitié de la population mondiale dispose de téléphones portables. En Europe, il y a même plus d'abonnements que d'habitants. Les téléphones sont partout. Leur utilisation est si répandue que les gens comme moi qui apprécient la conversation de qualité se sont réfugiés au fait que, parfois, nos compagnons préfèrent utiliser leurs appareils plutôt que de s'intéresser à nous. Notre mode de vie actuel privilégie la satisfaction immédiate et limite notre capacité d'attention. Il nous habitue aussi à rechercher de nouvelles informations à chaque instant. Alors, pour bon nombre d'entre nous, la conversation tranquille, face à face, n'est pas aussi attrayante que le téléphone et ses constantes mises à jour, et les relations en souffrent. Ces appareils sont devenus une sorte de gilet de sauvetage. Chaque fois qu'un moment d'ennui menace, les gens se tournent vers leur portable, explique Daria Kuss, maître de conférence en psychologie à l'université de Nottingham Trent, en Angleterre, qui étudie l'usage du téléphone mobile. Le téléphone portable a une influence sur la conversation, même s'il n'est pas utilisé. Les chercheurs ont remarqué que lorsqu'il est placé sur une table, même si son propriétaire n'en fait pas un usage actif, la conversation n'est pas aussi profonde qu'elle devrait être. Notre étude a révélé que lorsque le téléphone est exposé à la vue des interlocuteurs, La qualité de la conversation et l'empathie dans les échanges sont moindres, explique Shalini Misra, qui enseigne les affaires urbaines à l'Institut Polytechnique et Université d'État de Virginie aux États-Unis. Parce que les gens ont sans doute conscience qu'ils peuvent être interrompus, ils sont moins enclins à discuter de sujets intimes ou de leurs problèmes et se contentent d'aborder des sujets superficiels. Une conversation sérieuse requiert de la vigilance, explique Shalini Misra. Il faut écouter chaque mot, être attentif au ton et aux pauses, observer les expressions du visage et les mouvements du corps, et essayer de comprendre ce que nous entendons et ce que cela signifie afin de répondre de manière appropriée. C'est une tâche complexe qui nécessite beaucoup de ressources cognitives. Si notre attention est détournée, ce type de conversation est difficile. La simple vue du téléphone nous amène à diriger nos pensées vers d'autres choses. Les chercheurs ont découvert pourquoi il est si difficile de lâcher ces petits appareils. Ils alimentent notre nature addictive. Chaque fois que vous obtenez un « j'aime » sur les réseaux sociaux ou une récompense dans un jeu, explique Oliver Bilke-Enst, vous recevez une petite dose de dopamine au niveau du mécanisme de récompense de votre cerveau. Et vous cherchez à en obtenir toujours un peu plus. C'est comme fumer une cigarette ou manger un bonbon. Peut-être ne recevez-vous pas ce genre de récompense de la part de votre conjoint. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que cette phrase vient dire. Si vous êtes fatigué de jouer les seconds rôles avec un portable et souhaitez en limiter l'utilisation par un être cher, tout en évitant une discussion houleuse, voici quelques idées. Précisez vos desiderata. Expliquez calmement que vous souhaitez ne pas voir de téléphone à l'heure du repas ou quand vous êtes en pleine conversation, sans porter d'accusation ni faire de reproche. Dites davantage « je » que « tu », conseille Dariadus. Dites « j'aimerais passer plus de temps avec toi » au lieu de « tu consacres tout ton temps à ton portable ». Bon. Négociez une réduction des alertes. S'il désactive celle des réseaux sociaux et de ses jeux favoris, il utilisera moins souvent son appareil. Les notifications augmentent l'utilisation du portable, explique Joël Bilieu, qui est professeur à l'Université du Luxembourg, qui étudie la dépendance aux technologies de l'information et de la communication. Selon des chercheurs, lorsqu'on reçoit une notification, on vérifie généralement si d'autres applications nous en ont envoyé. Encouragez votre partenaire à garder son téléphone dans la poche et non sur la table. Quand le téléphone est en vue, il devient essentiel pour la personne, même si elle n'est pas consciente, si elle n'a pas conscience que son attention est détournée. Je voulais éteindre le micro, mais je n'ai pas réussi. Je m'excuse auprès des auditeurs. Votre partenaire peut ne pas avoir conscience du temps qu'il passe sur chaque application de son téléphone, mais son téléphone, lui, le sait. Demandez-lui de vérifier ses données. La personne prend alors conscience du temps qu'elle consacre à son téléphone, dit Dariarcus. Le constater peut l'amener à moins l'utiliser. Offrez-lui une montre, tiens donc. Il n'aura pas à chercher son téléphone pour vérifier l'heure. Ça, c'est sûr. Selon Joël Bilieu, une étude récente a montré que les personnes portant une montre passaient moins de temps sur leur téléphone portable.
Oui, tout à fait.
La solution est peut-être très simple.
Il faut changer les idées. Il y a des solutions simples aussi dans nos réunions de famille. On demande souvent aux gens de laisser le téléphone à l'entrée,
comme
dans le garde-robe.
C'est
alors,
ça.
À ce moment-là, on a beaucoup plus d'échanges.
Les thérapies de groupe, c'est ce qu'ils font.
Comme dans les théâtres aujourd'hui, on dit « s'il vous plaît, éteignez votre téléphone ».
Oui, des thérapies de groupe avec le téléphone, non, ça ne fonctionne pas. Merci Roger, on retrouve Serge dans quelques secondes. Alors, effectivement, M. Hamelin.
Oui.
À votre tour.
Bon, alors voilà. Tiré de la revue Protégez-vous, comme d'habitude. L'article s'appelle Tous dehors. Cuisine d'été, soufre extérieur, foyer, et de plus en plus, la cour arrière devient un prolongement de la maison. Cette tendance a même un nom, l'outdooring. Mm-hmm. C'est anglais, hein? Frédéric Perron qui a écrit cet article. En septembre 2010, Trévi se retrouve avec un surplus de stock de pavillons de jardin, communément appelés gazebo, qui servent surtout à couvrir les spas. Alain Gravel, directeur du marketing et de la publicité de l'entreprise, a alors une idée. Pourquoi ne pas utiliser cet abri pour créer une pièce extérieure où l'on peut manger et se détendre? Il demande à une designer de concevoir des exemples d'aménagement et trouve même un nom à son nouveau concept, l'outdooring, qu'il fait enregistrer comme marque de commerce. Et au printemps suivant, cette tendance connaît un succès immédiat chez Trévi. Les ventes de pavillons de jardin et de meubles extérieurs, en particulier les sofas modulaires, sont aussi en hausse. Même constat chez ses concurrents comme Club Piscine, qui profite de cette mode encore très populaire aujourd'hui. Alors, le B.A. trait d'union bas de la tendance jardin. La tendance jardin, terme que recommande l'Office québécois de la langue française pour remplacer outdooring, consiste à aménager la cour comme si elle était une autre pièce de la maison. Et l'idée est d'installer un coin repas, table et chaises, une zone détente, sofa et table basse, un foyer ou même une cuisine extérieure avec barbecue et comptoir. Le plus souvent, l'espace réservé au repas ou à la détente est installé sous le pavillon du jardin, ce qui vous permet d'en profiter beau temps, mauvais temps. Et vous pouvez même combiner les coins repas et détente, puisque certains sofas modulaires sont vendus avec une table à manger. Et si vous ajoutez un chauffe-terrasse, chaufferette à infrarouge, sous votre abri de jardin, vous y serez très bien, même durant les soirées fraîches du printemps et de l'automne. Le prix de ces meubles et aménagements peut cependant être très élevé. Protégez-vous à choisir de vous présenter, dans la mesure du possible, des options abordables. Et si votre budget ne vous permet pas de transformer complètement votre cour arrière, rien ne vous empêche de l'aménager étape par étape, selon vos moyens et vos priorités. Commencez par installer un coin repas au cours de l'été qui vient, puis vous pourrez aménager un espace détente l'an prochain. Le pavillon de jardin, quels sont les prix? Ça nous intéresse. Alors, ça varie entre 200 $ et 10 000 $. Ah bon? Alors, véritable pièce centrale de la tendance jardin, le pavillon abrite un ensemble de tables à manger et chaises, ou encore un sofa modulaire et une table basse. Il est aussi possible de créer un espace qui serve à la fois d'un coin détente et de coin repas en combinant un sofa modulaire et une table à manger. Les plus petits modèles de pavillons font généralement 10 par 10, 3 mètres par 3 mètres, ou 10 par 12 pieds, 3 mètres par 3,7 mètres, ce qui convient parfaitement à un aménagement simple avec table à manger ou sofa modulaire. Le prix des abris de jardin varie selon la taille, bien sûr, et surtout le type de toiture. Vous trouverez dans les grandes surfaces des pavillons à toiture de toile dont le prix de départ est d'environ 200 $. Ils ne sont toutefois pas assez résistants pour supporter le poids de la neige, et il faut les démonter à l'automne et les assembler de nouveau au printemps. Alors, les meubles qu'ils abritent doivent être rangés à l'intérieur en hiver ou à tout le moins être protégés d'une housse. Vendus à partir d'environ 700 $, certains modèles de pavillons sont recouverts de polycarbonate, c'est-à-dire un plastique légèrement translucide, plutôt que d'une toile. Et d'après Michel Martel, directeur des ventes chez Martel Paysagiste à Sainte-Julie, ces produits sont à éviter. Car la grêle pourrait les endommager ou ils pourraient même s'effondrer sous le poids de la neige. Mais oui. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que Club Piscine n'en vend plus depuis 2016, indique Marc Gentil, vice-président aux opérations de l'entreprise. Les toitures de polycarbonate sont plus résistantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, affirme cependant Alain Gravel. Et Trévi propose toujours ce type de produit. Les pavillons de jardin, les plus solides, vendus à partir d'environ 2000 $, sont coiffés d'une toiture faite d'acier galvanisé ou d'aluminium. C'est la meilleure option si vous voulez une installation permanente et sans entretien. Et il y a d'autres éléments à considérer. La plupart des modèles intègrent des rideaux moustiquaires. Si vous habitez dans une zone venteuse, comme ma sœur, elle habite sur la rue de la Tourmente, à Mascouche. rue de la Tourmente, parce que c'est... Là, je dis, quel nom de rue, toi? Et c'est à cause des vents.
Ah,
ah oui. Alors, il vaut peut-être mieux opter pour un pavillon de jardin équipé de murs.
Oui.
Hein, c'est ça qu'elle a fait. Porte et fenêtres rigides plutôt que de rideaux. Mais non, sinon, elle était partie au vent. Elle,
oui.
Oui, bien sûr. Alors, votre abri devra être posé sur une base de béton, de pavé ou de bois et calculé environ de 20 à 30 $ le pied carré, de 220 à 330 $ le mètre carré pour faire construire cette base, matériaux et main-d'œuvre inclus. Vous aimeriez chauffer votre pavillon pendant les soirées froides? Ajoutez-y un ou deux chauffe-terrasses infrarouges électriques vendues à partir de 140 $ l'unité. Prévoyez débourser de 150 à 850 $ selon les modèles pour faire installer votre abri de jardin par le détaillant. Uh-huh. Les coins repas, ça coûte combien? Eh bien, de 300 à 3000. Eh oui, ça dépend de ce que vous mangez. Bon, alors vous trouverez dans les grandes surfaces des ensembles de tables à manger et chaises de base vendues entre 300 et 400 $. À ce prix-là, il s'agit habituellement de meubles dont la structure est en acier. Voyez l'encadré ci-dessous. Alors, on ne le verra pas. La surface de la table est souvent en verre trempé et le tissu des chaises en textilène. Mm-hmm. Un matériau qui résiste à l'eau et aux rayons ultraviolets. Votre budget est un peu plus généreux et pour quelques 1000 $, vous pourrez acheter des ensembles comprenant des chaises dont la structure est recouverte de rotin synthétique, résine résine tressée, hein? Un matériau très à la mode. Et contrairement à sa version naturelle, le rotin synthétique est teint avant le tressage et non après, ce qui l'empêche de s'écailler avec le temps. Comme le textilène, il supporte bien l'eau et les rayons UV. Et dans cette gamme de prix, la structure est généralement en aluminium plutôt qu'en acier. Et si vous préférez une table dont le plateau a l'aspect du bois et non celui de verre trempé, eh bien vous avez l'option du polybois, polywood. Ce matériau, fait de plastique recyclé, résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien. Et de plus, il est garanti 20 ans par le fabricant. Alors, ça vous donne une idée là, de l'outdooring maintenant?
Parce qu'on comprend, il y a de grosses ventes en ce moment. Hein, pour
c'est sûr que là, la fin de la saison, hein, à la fin, vous savez comment ce que c'est.
Oui,
hein?
Tout à fait.
Bon, on veut liquider. Okay. Et dites-moi une chose, est-ce que j'ai le temps pour l'acier ou l'aluminium? Lequel des deux?
Une minute à peu près.
Ouais. Bon, ouais, parfait.
On y va.
Alors, la structure des meubles d'extérieur est habituellement faite d'acier ou d'aluminium, et ces deux métaux s'oxydent s'ils sont exposés aux intempéries, mais pas de la même façon. Ouais. L'acier rouille, tandis que l'aluminium perd de son éclat. Mm. C'est bon, ça?
Exact.
Alors, vous avez le choix entre la rouille et l'éclat.
Ben, merci. De ce côté, oui. OK. Merci beaucoup, M. Hamelin. On se retrouve un petit peu plus tard. Pour l'instant, ça va à la pause musicale, et après, on vous revient avec Roger.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Joliette.
Monsieur Serge Reggiani et la pièce Ma Liberté, tirée de son second album, aptement intitulé Album numéro 2, paru en 1967, et on écoute ça aujourd'hui, car ce 23 juillet, on souligne l'anniversaire de décès de M. Reggiani, lui qui est disparu en 2004, un 23 juillet. Ça fait donc 14 ans aujourd'hui.
Oh là là. Déjà?
Déjà 14 ans.
Ah. Merci Jean-Sébastien. Roger,
oui. Deuxième article. Il est où le Nord? Il n'y a pas une chanson comme ça.
Non, c'est où, il est où le bonheur?
Il est où le bonheur? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était censé amener le texte, le titre de mon papier ici.
D'accord.
Il est où le bonheur? Il est au nord.
Il est au nord?
Oui. J'ai manqué mon coup, semble-t-il.
Non, ça va.
L'hiver n'empêche pas d'être heureux. Le World Happiness Report des Nations Unies vient de publier les résultats de la dernière enquête Gallup sur la satisfaction des gens à l'égard de la vie qu'ils mènent. Des centaines de milliers de répondants ont été sondés dans 156 pays. Comme on l'indique dans un graphique qui accompagne le texte, les quatre pays les plus heureux de la planète sont des pays nordiques, la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Deux autres pays du Nord, le Canada et la Suède, occupent les 7e et 9e rangs. En raison de ces hauteurs, on pourrait inclure au 5e rang la Suisse, avec ses 48 sommets enneigés de plus de 4000 mètres. Où est le Québec? En 2016, Statistique Canada a estimé que le degré de satisfaction des Québécois par rapport à leur vie était le même que celui des autres Canadiens. Le Québec occupe ainsi le 7e rang avec le Canada dans le graphique. Les travaux scientifiques sur le bonheur ont grandement progressé depuis que le roi du Bhoutan a proposé, il y a 45 ans, d'utiliser la notion de bonheur national brut plutôt que celle jugée trop étroite de produit intérieur brut. Bonheur national brut, pour guider les politiques de son pays. L'économiste canadien John Helliwell de l'Université de Colombie-Britannique est le leader mondial incontesté de la recherche en la matière. Qu'est-ce donc qui rend heureux? Sur le plan individuel, une bonne santé physique et mentale, des relations amoureuses, familiales et amicales gratifiantes, un travail stable, rémunérateur et satisfaisant. Sur le plan collectif, un revenu national décent, partagé de façon égalitaire, l'espérance d'une longue vie en santé, la capacité de faire des choix de vie libres, la générosité, l'absence de corruption perçue dans les entreprises et l'État. À mesure que les effets de ces divers facteurs sur le bonheur des gens deviennent mieux connus, les possibilités d'en tenir compte explicitement dans l'orientation des politiques publiques se multiplient. Cela augmente la probabilité d'accroître leur incidence favorable sur le bien-être individuel et collectif. Voici 8 exemples concrets qui permettent de comprendre à quel point le roi du Bhoutan avait raison de dire que ce qui est important, c'est le bonheur national brut. 1. Combattre le chômage involontaire prévient les pathologies personnelles, familiales et sociales qui l'accompagnent. Cela fait bien plus que d'éliminer les pertes de revenus qui accompagnent le chômage. Promouvoir un sain régime alimentaire et l'exercice physique régulier ne permet pas que de faire économiser de l'argent à la régie de l'assurance maladie. Cela engendre une meilleure santé dans l'immédiat et l'espérance de vivre plus vieux demain. Appuyer financièrement l'économie sociale et les organismes communautaires permet d'investir dans la générosité et l'entraide et de lutter contre les inégalités socio-économiques. Ce n'est pas gaspiller l'argent des contribuables. 4. Les 45 millions de dollars qu'a coûté la commission Charbonneau pour faire éclater au grand jour la corruption dans l'industrie de la construction et les gouvernements furent un investissement rentable dans la protection de l'intégrité de nos corps publics et privés que nos concitoyens appellent de tous leurs vœux. 5. La conciliation travail-famille qu'ont permis notre système de garderie bon marché et nos congés parentaux étendus ne doit pas seulement être jugée pour son effet sur le PIB, qui est appréciable, mais aussi pour la plus grande liberté de choix de vie qu'elle confère aux familles. 6. Développer des écoles primaires, l'aptitude à l'effort, la ténacité, la gratitude, l'empathie, la maîtrise des émotions, le contact avec la nature, le leadership et l'esprit critique améliorent la capacité des élèves de bien fonctionner individuellement et en société. Leurs résultats scolaires en bénéficient, c'est prouvé. 7. Transformer en bâtiments modernes et accueillants, sans frais exagérés, les taudis que sont devenus un trop grand nombre de nos écoles est un impératif. Cela aiderait grandement à en faire les lieux de fierté et de persévérance scolaire que nous désirons tous. Et finalement, 8. Dans nos grandes villes, comme à Barcelone, à Amsterdam ou à Copenhague, rendre le transport, comme on le fait dans ces grandes villes, rendre le transport fluide et silencieux, les voies piétonnes et cyclables plus nombreuses, le patrimoine architectural accessible et le bord de l'eau ouvert à tout le potentiel d'y ramener la douceur de vivre. Comme aime à le répéter l'architecte Pierre Thibault, la beauté rend heureux. Ouais, point final.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est une très belle citation. C'est Pierre Fortin qui écrit ce texte dans l'actualité du mois de juillet. Le bonheur est au nord.
D'accord. Merci beaucoup, Roger. Petite nouvelle pour vous du monde de la médecine. On dit que sans perte de poids, l'exercice est bénéfique. On dit que pour savoir si surpoids et santé peuvent aller de pair, des chercheurs danois ont mesuré les marqueurs de l'inflammation qui prédisposent aux maladies cardiaques, au cancer et au diabète de type 2 de plus de 11 000 volontaires. Et les sujets dont les fonctions cardiaques et pulmonaires étaient les meilleures représentaient moins d'inflammation et d'accumulation de graisse abdominale. Donc, on dit que si vous vous entraînez et vous ne perdez pas de poids, c'est quand même très bénéfique pour la santé. Alors voilà, c'est une étude que j'ai retrouvée dans la sélection du Reader's Digest. On s'en va directement à la deuxième demi-heure de cette émission du 23 juillet 2018. À plus tard.
Écoutez les voix de service.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y'a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour. J'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment. Pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors
corps. Je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Christophe Maé, après que Roger nous ait mis cette pièce dans la tête, on avait d'autre choix que de l'écouter. C'était donc « Il est où, le bonheur?
» On en profite au maximum. Quel bel état d'esprit, oui. Merci Jean-Sébastien. Un petit article que j'ai trouvé dans la sélection du Reader's Digest du mois de juillet et août 2018, naturellement. Alors, on parle d'un minéral qui est le fer et c'est titré « Une santé de fer », c'est écrit par Samantha Bideroth. Alors, elle écrit « Le fer est nécessaire à toute forme de vie. Nous en avons besoin, entre autres, pour fabriquer l'hémoglobine et la myoglobine, des protéines qui distribuent et stockent l'oxygène dans l'organisme. C'est dans la nourriture que nous puisons cette forme de fer. » Entre autres la viande, le poisson, le jaune d'œuf aussi, les légumineuses, les noix et les légumes aussi, verts en contiennent beaucoup. Cuisinés dans une poêle en fonte, d'où se détachent des microscopiques fragments de métal, peut en augmenter l'apport. Prendre un supplément de fer complète aux besoins d'une saine alimentation, mais sans s'y substituer. Voilà ce qu'on dit. Le fer alimentaire se présente sous une forme héminique, uniquement d'origine animale, ou non héminique, animale et végétale. L'organisme assimile bien le fer héminique, dit Agnès des Saint-Maison-Lecarré de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. L'absorption du deuxième, en revanche, dépend des autres éléments du repas. En effet, elle est facilitée par la consommation de tissus musculaires ou d'aliments riches en vitamine C, comme les oranges et les tomates. Le corps stocke le fer. Toutefois, un apport insuffisant ou une mauvaise absorption peut causer l'anémie, une carence en globules rouges, entre autres, qui transporte l'oxygène. Celle-ci provoque fatigue, essoufflement, sensibilité au froid, des maux de tête aussi. Irritabilité et étourdissement et pâleur anormale. Traiter l'anémie ferripique, diagnostiquée par analyse sanguine, contribue à prévenir des troubles cardiaques par la suite. Ce type d'anémie peut découler d'une affection sous-jacente, comme la maladie cœliaque, et c'est l'inflammation de l'intestin, ou du cancer colorectal. Et parce que toute perte de sang diminue la réserve organique de fer, les femmes qui ont leurs règles et les donneurs de sang réguliers ont plus de risques d'en souffrir de ces maladies. À moins d'excéder largement la dose recommandée de suppléments, être en surdose de fer est improbable, sauf en cas voilà, je vais le dire le mot. Démochromatose, une maladie génétique qui affecte 0,5% de la population blanche d'Europe nord-occidentale. Elle entraîne une absorption excessive du fer qui provoque fatigue et douleurs articulaires et aussi abdominales. Non traitée, elle peut causer des troubles cardiaques ou hépatiques graves, mais une alimentation pauvre en fer ou des dons de sang réguliers en atténue les symptômes. Alors voilà, en conclusion, l'article, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner du sang. Hein, c'est une bonne pratique.
Oui,
entre autres, si on veut régulariser le fer dans le sang et aussi manger dans une poêle en fonte. Apparemment, ça détache le fer et on a du fer dans le corps à ce moment-là. On vous revient dans quelques instants avec Serge. Alors, on poursuit avec Serge,
oui.
Qui nous parle de...
Ah, de la banlieue réinventée.
Ah,
ça, c'est beau, ça.
Mm-hmm.
Oui. Des projets par dizaines.
Oui.
On présente ici, dans la revue Protégez-vous, plusieurs projets immobiliers qui misent sur le développement durable ou l'éco-responsabilité comme Urbanova à Terrebonne et Symbiocité à La Prairie. Mm-hmm. On a également positionné les 11 projets de TOD, c'est-à-dire Transit-Oriented Development, soutenus par la communauté métropolitaine de Montréal, le CMM. De quoi s'agit-il? C'est d'un développement immobilier de moyenne à haute densité, structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité, comme une gare de train, une station de métro, un arrêt de service rapide par bus, selon la définition qu'en donne l'ACM. Situé à distance de marche d'un point d'accès important du réseau de transport collectif, le TOD offre des possibilités de logement, d'emploi et de commerce, et il n'exclut pas l'automobile. Donc, on commence. Le modèle de développement des banlieues, hérité des années 60, a fait son temps. De Terrebonne à Brossard, de nouveaux quartiers sortent de terre. Mais ces projets résidentiels tiennent-ils leurs promesses? C'est Rémi Leroux qui nous parle de ça dans Le Protégez-vous. Dans le jardin communautaire, les voisins s'échangent conseils et plants de tomates. Sur la place Alta Vista, centre névralgique du quartier, les framboises et les bleuets poussent en libre service. Et tout près de l'école de l'espace couleur, les enfants jouent sur les terrains de sport, tandis qu'un couple de coureurs rejoint un sentier qui serpente au cœur d'un vaste corridor de biodiversité. Entendant l'oreille, on pourrait presque entendre chanter une grenouille des marais. Bienvenue dans le quartier Urbanova à Terrebonne, la banlieue nouveau genre. À terme, ce projet d'envergure unique en son genre accueillera 35 000 résidents dans les 12 000 unités d'habitation prévues. La taille d'une ville moyenne. Mais le décor ne ressemble plus en rien à celui que les urbanistes dessinaient au siècle dernier, soit celui de la banlieue avec ses maisons unifamiliales cordées à l'infini, ses pelouses tondues de près et ses allées asphaltées souvent installées devant un garage à porte double. Voilà à quoi ressemblait la banlieue où a grandi Geneviève Deslauriers dans les années 70. J'habitais à Sainte-Dorothée, à Laval, dans un quartier de bungalows, loin des commerces et des transports en commun. La protection de l'environnement n'était pas la priorité des promoteurs, mais on avait somme toute une belle qualité de vie, se souvient la directrice artistique indépendante installée à Urbanova depuis 2014 avec son conjoint Patrice et leurs deux enfants. Elle reconnaît que son nouveau lieu de vie est bien différent de la banlieue de son enfance. ici. Le développement durable est dans l'ADN du projet. 600 hectares, soit près de la moitié de la superficie totale du quartier, correspondent à des milieux naturels protégés, boisés, ruisseaux, milieux humides. Donc la moitié, ça. Urbanova est d'ailleurs présenté par son promoteur comme le plus grand projet éco-responsable au Canada. Et les constructeurs ont des normes d'éco-responsabilité à respecter, tout comme les résidents lors de leur rénovation future. Proximité. Oh. Et ils ne se sont pas encore construits. Les commerces et services de proximité, supermarchés, services administratifs, etc., figurent dans les plans du promoteur immobilier. La dimension écologique d'Urbanova a beaucoup séduit le couple, même si vivre en banlieue a été une décision douloureuse à prendre pour Patrice, qui enseigne au collège d'Anjou dans l'est de la métropole. J'étais très attaché à notre vie montréalaise, avec les amis, les nombreuses activités culturelles et les loisirs, dit-il. Mais ce changement de vie répondait aussi à un argument financier. Ça faisait des mois qu'on cherchait à acheter une maison à Montréal, explique Patrice. Et lorsqu'on a découvert Urbanova, on était à deux doigts d'acheter un duplex pour 500 000 dans Rosemont, qui nécessitait des travaux de réno de plus de 150 000 $. De la folie! Leur maison de ville, sur 3 étages, avec garage, leur a coûté moins de la moitié de cette somme, soit 320 000 $, et dans cet espace de près de 150 m², 1600 pieds carrés, chacun a sa chambre à coucher et les parents ont leur bureau au sous-sol. La pièce à vivre est vaste et baignée de soleil. Dans la cour, Patrice et Geneviève ont fait creuser une piscine. Et le prix au pied carré de ce type de projet résidentiel est toutefois plus élevé que celui des traditionnels quartiers de banlieue, observe Gérard Baudet, urbaniste et professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. L'accès à la nature et à des aires de conservation a un coût, et les nouveaux propriétaires sont prêts à payer un peu plus cher pour l'environnement et la qualité de vie, dit-il. Mais ce un peu plus cher demeure bien en deçà des prix exorbitants de la métropole. Bon. C'est le paradis sur terre, ou presque. De Terrebonne à Saint-Eustache, de la Prairie à Brossard, sur la rive nord comme sur la rive sud, la banlieue se transforme au gré des nombreux projets immobiliers qui séduisent les consommateurs. Souvent présentés par les promoteurs comme le paradis sur terre, ces nouveaux quartiers prétendent reproduire la ville à la campagne avec leur subtil équilibre entre développement durable, qualité de vie, accès à la nature et proximité des services et commerces. Sandy Pratt et son conjoint vivent ce rêve à leur façon dans le quartier Symbiocité à La Prairie. Plus modeste qu'Urbanova en nombre de logements, 1400 unités contre 12 000, Symbiocité a fait les manchettes ces dernières années en raison de la présence de la rainette faugrillon. Qu'est-ce que c'est que la rainette faugrillon? Eh bien, c'est une espèce de grenouille menacée par le chantier de l'une des phases du projet qui a été abandonné depuis. Les amoureux souhaitaient rester sur la rive sud, où chacun avait son propre condo. En achetant ensemble une maison unifamiliale à La Prairie en 2016, ils ont gagné de l'espace et un jardin, le tout en vue de fonder une famille. Et le couple ne regrette pas son choix. Nous avons eu un coup de cœur pour le design et les pièces spacieuses de la maison, même si au départ on ne connaissait pas grand-chose du quartier, indique Sandy. Hormis l'air protégé pour les grenouilles, ils ne savaient pas que ce projet immobilier prévoyait un centre commercial et un aréna. Non. En marchant dans le boisé, ils peuvent désormais entendre chanter la rainette faugrillon. C'est bien beau, le développement durable, mais encore faut-il que ces quartiers répondent aux besoins de ceux qui les habitent. Prix abordable, logement de qualité, équipement public et commerce de proximité, transport collectif accessible, nature environnante. Pour le moment, Gérard Baudet n'ose pas trop se prononcer. La plupart des projets n'ont pas fini d'être construits, dit-il. Toutefois, ils soulèvent un écueil qui représente une menace à leur réussite. la présence insuffisante de commerces et de services qui a pour effet de contraindre les résidents à utiliser encore et toujours leur automobile. L'éco-responsabilité, c'est aussi contribuer à réduire le nombre de voitures sur les routes, observe Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en Ville. Et souvent, les promoteurs ne font que la moitié du chemin. Oui, oh, ils portent attention à la qualité de vie et à la protection des milieux naturels, mais je me méfie de cette tendance au « greenwashing », c'est-à-dire à l'éco-blanchiment, qui fait que certains projets s'annoncent plus verts qu'ils ne seront une fois terminés. Et selon lui, le plus difficile pour les promoteurs immobiliers est d'arrimer le quartier au réseau de transport collectif. Ça, là, c'est pas évident. Okay. Donc, on continue. L'auto est partout. Et Sandy Pratt enseigne dans une école à Longueuil. L'idée de passer une quarantaine de minutes dans les transports en commun matin et soir ne l'enchante guère. Et si je devais me rendre au travail en autobus, le trajet prendrait deux fois plus de temps qu'en auto, souligne-t-elle. Même chose pour Geneviève Deslauriers, qui est travailleuse autonome et peut travailler de la maison en semaine. Mais lorsqu'elle doit rencontrer des clients à Montréal, elle y réfléchit à deux fois avant d'utiliser les transports en commun. La gare du train de l'Est à Terrebonne est à 10 km de chez nous et y aller en autobus n'est pas simple à organiser, dit-elle. Et la voiture demeure l'option la plus efficace. Pour faire leur épicerie, Geneviève et Patrice n'ont pas le choix non plus de prendre leur voiture. Un terrain dans le quartier a été réservé pour la construction d'un supermarché. Mais tant que la masse critique d'habitants ne sera pas atteinte, son implantation ne sera pas rentable, suppose Patrice. Et l'hiver dernier, un dépanneur a ouvert ses portes à quelques centaines de mètres de leur maison. Il y a de quoi acheter des bonbons, mais pas de quoi remplir le frigo, s'exclame-t-il. En attendant l'ouverture du métro, ils prennent l'auto pour faire leurs courses à Rosemère, une ville située à quelques kilomètres de chez eux. Dans les quartiers bâtis il y a 50 ans, comme dans ceux construits récemment, nous restons dépendants de l'automobile, analyse Gérard Baudet. On dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Ouais, tout à fait. Christian Savard donne l'exemple du faubourg Boisbriand à Boisbriand. Le lotissement comprend une zone industrielle, une zone commerciale et un quartier résidentiel de quelques 1700 logements. Le programme résidentiel est intéressant, les promoteurs ayant obtenu des certifications du type LEED pour les habitations, des bâtiments à haute qualité environnementale, mais le quartier a été implanté juste à côté d'un Power Center. Tous deux séparés par des voies de circulation, sans véritable trame piétonne, ce qui fait qu'il est impossible de s'y rendre à pied. Et tant que nous serons dans une logique autoroutière de déplacement, nous ne créerons pas de véritable milieu de vie qui réunisse toutes les fonctions, logement, services, commerce, espace vert, transport collectif, etc. Les ingrédients magiques de la densification. Or, cette logique est appelée à changer. OK? Puisque les municipalités n'ont plus le choix de prendre en considération le besoin de proximité des résidents, affirme Florence Pauliac, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle rappelle que le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, exige que de ses 82 municipalités membres qu'elles se densifient, en particulier autour de stations de transport collectif, construire plus de logements sur une superficie moindre, tel est le nouveau défi de la banlieue.
Voilà. Ouais, c'est un beau projet, mais quand même, manque de commerce. Hein.
Non.
Ouais, effectivement. Non. C'est vrai. Merci beaucoup, Serge.
Centre-ville, j'habite une jolie maison. Dans une banlieue propre et tranquille, loin du bruit et de la pollution. Chaque matin, je me réveille dans la fidèle fatalité. De l'autoroute ou sans bouteille, les travailleurs bien cravatés. Je suis de la classe moyenne, ça veut dire que je suis endetté. Jusqu'au jour où la mort survienne, car pour la mort je suis assuré. Mais pour la vie, c'est la finance à qui je dois tout mon bungalow. Frigidaire et mes vacances, mes plants de tomates et mon auto. J'ai deux enfants qui sont mon or et que j'adore, évidemment. Leur maman qui fut la femme dont autrefois j'étais la main. Et maintenant c'est l'habitude où l'on fait semblant d'être heureux. Et qui connaît la solitude sait qu'elle est plus terrible à deux. Je rêve à mon enfance et dans le bar de mes 20 ans. Je trinque à ma dernière chance en pensant qu'il est encore temps. Mais le chanteur ne veut plus boire. Il est 3 heures et tout s'éteint. La serveuse compte ses pourboires, le hasard des jours, le destin. À 20 minutes du centre-ville, j'habite une jolie maison.
Le toujours fort agréable à entendre Sylvain Lelièvre nous chantait « La banlieue ».
Merci beaucoup. Il est essentiel de boire de l'eau, vous le savez. Un article que j'ai retrouvé dans le Reader's Digest. Le sélection, en fait, du mois de juillet et août, et il se titre « Eau de vie » et on dit que l'hydratation est essentielle au corps et au cerveau humain. Hein? Et au cerveau aussi des animaux, sûrement. Alors, boire assez d'eau peut vous éviter beaucoup de problèmes de santé. La quantité nécessaire dépend de nombreux facteurs, le poids, entre autres, le climat, les activités, etc. Mais suivre la règle des 8 verres d'eau de 225 ml quotidiens est un bon début. L'urine jaune, claire ou transparente témoigne d'une bonne hydratation. Si elle est plus foncée, il faut sans doute boire plus, mais faites surtout confiance à votre ressenti, parce que le corps le demande. L'eau est un puissant élixir pour l'esprit et le corps. Voici comment une bonne hydratation protège la santé. Vous aurez, entre autres, beaucoup d'énergie si vous buvez de l'eau. L'eau maintient une circulation régulière des substances nutritives dans les cellules, dont les membranes sont moins perméables quand on est déshydraté. Entraver cette circulation a des conséquences sur les performances physiques et mentales. On se sent vraiment amorphe. C'est ce que révèlent des chercheurs de l'hydratation menés par l'Université de Caroline du Nord et de l'Université de Tufts aux États-Unis.
Vous aurez aussi plus de force à l'entraînement. L'eau favorise le maintien de l'équilibre des électrolytes, comme le sodium, entre autres, le potassium et le magnésium, qui assurent le bon fonctionnement des muscles. Et sans eau, ceux-ci sont sujets aux crampes, imaginez. Même légère, la déshydratation semble affecter la performance physique. Et vous êtes lassé de boire de l'eau? Ben, agrémentez votre boisson à la gazéifiant ou à la parfumant aux fruits, mais évitez les édulcorants artificiels et fuyez les sodas toniques chargés en sodium et en sucre. Mangez aussi beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent aussi beaucoup d'eau. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour l'émission. Merci Serge d'avoir été là. À la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine et surtout profitez de vos vacances si vous l'êtes.